Les sœurs nous ont rejoints. On a eu le premier culte à 9h30. On a passé un moment agréable avec le Seigneur et avec tous ceux qui étaient là aussi. Et puis, là maintenant, on est aussi là avec d'autres bien-aimés. Et depuis ce matin, je nous encourage au travers ce psaume d'Azaph, psaume 73. Le psaume 73, psaume d'Azaph. C'est un psaume qui fait partie d'une partie des livres de psaumes qu'on appelle le livre 3. Donc, il part du psaume 73 jusqu'au psaume 83. Ce psaume a une particularité. Azaph est un juif, est un croyant de l'Ancien Testament. Azaph fait partie de ceux qu'on appelle les musiciens, de ceux qui chantent dans le temple de Dieu. Et Azaph fait partie de ceux aussi que Dieu a investis pour apporter leur contribution à la parole de Dieu. Il a écrit les psaumes 73 jusqu'au psaume 83. Je vous présente Azaph dans sa personnalité pour que vous puissiez comprendre la teneur de ce qui nous a laissé pousser par le Saint-Esprit. Je vous propose de lire le psaume 73, psaume d'Azaph. Psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient s'écarter du chemin. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent. Car j'étais jaloux de ceux qui font les fiers en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est replet. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes. Ils ne sont pas frappés avec les humains. C'est pourquoi l'orgueil leur est un collier, la violence un vêtement qui les enveloppe. Ils sont luisants de graisse. Les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. Ils raillent, ils parlent de faire du mal et d'opprimer. Ils parlent de haut. Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi le peuple se tourne vers eux. On boit leurs paroles et on dit, comment Dieu saurait-il? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut? Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles, ils accroissent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Je suis sans cesse frappé. Tous les matins m'apporte mon châtiment. Si je disais, je vais parler comme eux, je trahirais tes fils. J'ai donc réfléchi. Pour comprendre cela, ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai compris leur avenir. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber dans la tourmente. Comment? En un instant, les voilà dévastés. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un rêve au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais transpercé dans les reins, j'étais abruti, je ne savais rien. Devant toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis constamment avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je ne désire rien sur la terre. Ma chair et mon cœur s'épuisent. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car ceux qui s'éloignent de toi disparaissent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Quant à moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai choisi pour abri le Seigneur Dieu afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Voilà un psaume. Comme on le dirait dans un jargon un peu plus trivial, voilà un psaume qui décape, un psaume qui dérange. un psaume écrit par un serviteur de Dieu. Asaph, je le rappelle, est né dans la maison de Dieu. C'est un Israélite, un fils d'Israël. Certainement qu'il a été enseigné, éduqué, comme tous les enfants d'Israël, dans la pensée de Dieu, dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu. Et bien plus, quand il est devenu grand, il est même devenu serviteur de Dieu au temple. Il était musicien sacré. N'était pas musicien dans le temple qui le voulait, parce qu'il y avait une rigueur. Vous savez que dans l'Ancien Testament, servir au temple, c'était un risque. Le risque, c'était que si vous n'aviez pas fait toutes les règles de purification et que vous vous rendez au temple, le risque, c'était que votre vie soit balayée physiquement et que vous ayez des malédictions. Donc, Asaph était quelqu'un de cette catégorie qui savait faire les choses pour être en conformité avec Dieu. Et pourtant, c'est lui qui nous écrit ce psaume. Il écrit ce psaume parce qu'il est traversé en ce moment-là par un doute terrible. Il commence en disant, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et il dit, quant à moi, Asaph traverse un moment de sa vie où cette vérité que Dieu est bon n'est plus trop concret pour lui. Il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, Dieu est bon pour tous ceux qui les craignent. Mais moi, dans cette période, je ne vois pas comment Dieu est bon pour moi. Bien plus. Il dit, j'étais jaloux de qui? De ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce que en les voyant, alors qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils prospèrent. Et Asaph, il a des termes un peu, peut-être exagérés. Il dit, c'est des gens, quand tu les vois, ils ont aucun problème de santé. Leur vie va bien. Ils sont en bon point, comme si les soucis, c'était pas pour eux. Ils n'ont aucun souci. Et pourtant, les méchants, selon l'Ancien Testament, c'est non seulement des personnes qui ne craignent pas Dieu, mais qui, en plus, parlent mal de Dieu. Donc, c'est des croyants, mais pas vraiment, parce que les méchants, parfois, il y en a en Israël, qui sont nés dans la famille d'Israël, qui ont entendu parler du Dieu d'Israël, mais qui font des choses qui ne sont pas en conformité avec le Dieu d'Israël. Et puis, l'autre catégorie des méchants, c'est tous ceux qui sont pas nés en Israël, donc ils sont pas nés dans la famille du Dieu, donc de l'Éternel, et qui sont nés dans d'autres peuples, et qui ne connaissent pas ce Dieu-là, et qui font ce qu'ils veulent. Et Asaph dit, quand je regardais ces personnes, franchement, leur vie valait mieux que la mienne. Rien ne les tourmente. Leur corps est en un bon point. Ils n'ont aucune part avec la peine des humains. Tout va bien chez eux. Asaph dit, ça m'a troublé. Ça m'a troublé parce que j'avais pensé que si on n'aime pas Dieu, si on ne craint pas Dieu, en fait, on ne doit pas être aussi prospère, on ne doit pas être aussi en un bon point, parce que ces bénédictions-là, Dieu les donne à ceux qui les aiment, à ceux qui l'aiment, alors que ces gens, ils n'aiment pas Dieu et ils sont bénis. Bien pire, moi, Asaph, qui crains Dieu, et le texte est fort, Asaph dit des choses fortes. Verset 12, il dit, c'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Je suis sans cesse frappé. Tous les matins m'apporte mon châtiment. Moi qui crains Dieu, moi qui suis un serviteur de Dieu, au contraire, ma vie est ballottée par tellement d'épreuves. En tout cas, dans la période où Asaph écrit ce psaume, sa vie semble être ballottée que par des épreuves, que par des difficultés, que par des malheurs. Il dit, ça m'a fait réfléchir. Parce que j'avais voulu parler comme ces insensés. Mais je ne peux pas. Parce que mon identité, c'est d'être enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Ce Dieu de nos pères, on me l'a enseigné. Je l'ai connu. Bien plus, je le sers dans le temple. Donc, je ne peux pas parler comme quelqu'un qui n'a pas connu Dieu et qui ne connaît pas Dieu. Je trahirais l'identité des fils de Dieu. Mais ça me chiffonne quand même cette affaire. Et il dit, j'ai donc réfléchi vers 6 sens. Pour comprendre C'est-à-dire que dans cette tension entre les doutes qui naissaient par rapport à la pertinence de l'intervention de Dieu dans la vie du croyant, il dit, j'ai plus du temps quand même, parce que je ne pouvais pas juste rester là à réfléchir à tout ça, à observer comment ceux qui ne craignent pas Dieu vont bien. J'ai dû aller plus loin dans ma réflexion. Et il dit, pendant que je faisais cette réflexion, ça a été pénible pour moi de faire ce constat. J'ai grandi dans la foi. J'ai grandi avec ce Dieu d'Israël. Et pourtant, aujourd'hui, je mets ça en cause. Je mets sa présence en doute. Je mets ses bénédictions en doute parce que je vis des situations trop difficiles. C'est pénible pour moi. Il dit, jusqu'à ce que mes réflexions me conduisent dans les sanctuaires, me conduisent dans la présence de Dieu. Il dit, et là, j'ai compris. Là, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Il dit, il a compris, verset 18, qu'en fait, le parcours d'un homme ne peut pas être jugé par le présent de ses conditions sociales. C'est, qu'est-ce qu'il va devenir après sa mort? Qu'est-ce qu'il attend après sa mort? Il dit, j'ai compris que pour les méchants, après leur mort, c'est la souffrance éternelle. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, après leur mort, c'est la tourmente éternelle. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, après leur vie sur la terre, c'est la dévastation. C'était comme si leur vie, avec les bénédictions que Dieu leur a données, c'était un beau rêve dont ils se sont réveillés. Vous savez, on fait des rêves où on, parfois on est président, ou en tout cas, tout va bien, et on aimerait rester dans ce rêve-là, n'est-ce pas? Et hop, on se réveille, on dit, oh, c'était un rêve. Ah, c'était un beau rêve. Et Asaph dit, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui jouissent des bénédictions de Dieu, c'est comme ça. Pendant qu'ils sont sur la terre, ils n'ont pas besoin de Dieu, c'est vrai, parce qu'ils ont tout, ou presque tout, ou en tout cas, tout va plus ou moins bien comme chacun des mortels. Et ils ne se posent pas cette question. Mais Asaph dit, j'ai compris que malheureusement, à la fin de leur jour, ça serait comme s'ils se réveillaient d'un joli rêve, et la réalité est bien pire, parce que c'est le tourment, c'est le châtiment éternel qui les attend. C'est dur, hein? Mais il a compris. Il dit, ils sont à bout, achevés par l'épouvant, comme un rêve au réveil. Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur était aigri, verset 21, et que je me sentais transpercé par mes reins, j'étais abruti, j'étais insensé, je ne savais rien. Devant toi, j'étais comme un animal qui ne réfléchissait pas. Pourquoi il dit ça? Il dit parce que je me suis contenté de regarder la période de ma vie où tout n'allait pas bien. Je me suis laissé enfermer dans ma bulle d'épreuve, dans ma bulle de difficulté, dans ma bulle où il y avait tellement de questions plus que de réponses. Et là, je me disais, ah, celui qui connaît pas Dieu est mieux que moi. Parce que lui, au moins, il a pas à se mettre sous les lois de Dieu. Il peut faire tout ce qu'il veut pour résoudre ses problèmes. Il peut faire tout ce qu'il veut pour trouver des solutions. Et moi, à cause de la loi de Dieu, je ne peux pas faire des choses pour trouver des solutions. Il dit, j'étais abruti, j'étais comme des bêtes, j'étais un insensé. Il dit, mais regarde, verset 23, il dit, moi, constamment, je suis avec Dieu. Et ça, je l'ai oublié. Il dit, tu m'as même saisi par la main droite. Ça veut dire que j'ai une place de choix avec toi. Vous savez, la question de la droite, c'est la question du privilège. Jésus est mort, il est ressuscité, la Bible dit qu'il est monté à la droite et qu'il est assis à la droite de Dieu, le Père. La droite de Dieu, c'est la droite du privilège, la droite de la grâce. Bon et loyal serviteur, passe à ma droite. Méchant et mauvais serviteur, à ma gauche. Oui, en réfléchissant dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, je suis toujours avec Dieu. Ça nous rappelle quelqu'un. Ça nous rappelle le fils aîné, dans la parabole du fils prodigue. Il dit à son père, moi, j'étais là tout le temps avec toi et tu m'as jamais tué le veau gras. Ton fils qui a gaspillé ton héritage, qui t'a même fait des choses mauvaises, dès qu'il est revenu, tu as tué le veau gras. Et son père lui a dit, mais écoute, mais toi, tu es là, tout t'appartient en sa vie. Tout t'appartient. Tout t'appartient. Et Asaph dit, j'ai compris. Je suis constamment avec toi. C'est toi qui me conduis par tes conseils. Tes sages conseils me conduisent. Puis, à la fin de ma vie, verset 24, tu me prendras dans ta gloire. Et là, mes yeux se sont ouverts. Ne dit-on pas que ce soit le marathon ou la course de vitesse, que ce qui compte, c'est pas le départ. Quelqu'un peut prendre un bon départ dans une course, mais pas arriver au bout. Avec Dieu, le départ est certes important, mais c'est l'arrivée qui compte. Azaf dit, j'ai compris que le thème d'une vie, c'est vrai que dans le présent, on a besoin de cette présence de Dieu, mais il faut viser plus loin. Comment je vais terminer ma course? Est-ce que je termine ma course avec Dieu? Ou est-ce que je termine ma course avec que des bénédictions terrestres sans Dieu? Et il dit, j'ai compris que le méchant, en fait, sa course, il va la terminer certes avec des bénédictions, mais sans Dieu. Et ça sera terrible. Ça sera terrible. Et dit, qui d'autre est au ciel, moi? Qui d'autre est au ciel? C'est toi, mon Dieu. En dehors de toi, je ne désire rien sur la terre. Azaf a compris que peut-être on peut traverser en tant que croyant des périodes très, très difficiles, des périodes d'incompréhension. Mais où est Dieu? Mais que fait mon Dieu? Mais que fait Jésus? Je l'ai invoqué. J'ai telle situation familiale. J'ai telle situation professionnelle. J'ai telle situation financière. J'ai telle situation sociétale. Et rien ne semble s'arranger. Ça fait des mois que ça dure. Ça fait des années que ça dure. Seigneur, jusqu'à quand? Et le doute s'empare de nous. Vous savez, le doute, c'est l'un de nos ennemis. Le doute, c'est l'un de nos ennemis. C'est l'un des ennemis de la foi. Le doute a ceci d'insigneux. Il ne vient pas en un bloc. Il ne vient pas massivement. Il vient tout doucement. Il vient de façon très infuse. Le doute, il est un peu comme cette pluie ou cette goutte d'eau qui tombe sur une pierre qui n'est pas un roc solide et qui l'érode. Hein, vous savez, les pierres s'érodent tout doucement quand la goutte d'eau tombe dessus au fil et à mesure des années. Ça s'appelle l'érosion. Et le doute, il fait de l'érosion dans notre foi. Il la dégrade tout doucement. Si on la laisse, si on laisse le doute rentrer et prendre place, il nous détruit dans notre confiance à Dieu. C'est pour ça que lui, il dit au verset 25, au verset 26, « Ma chair et mon cœur s'épuisent, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. » Parce que j'ai compris, Azaf dit, j'ai compris que ceux qui s'éloignent de Dieu, ils sont condamnés à disparaître. Ils sont condamnés à aller dans le châtiment éternel. C'est pas une évangile de la peur, mais c'est la réalité que Dieu ne cesse de dire clairement aux humains. Le bon Dieu, il n'existe pas. Vous savez, le bon Dieu, c'est qui? Le bon Dieu, c'est celui qui, à la fin des temps, sauvera tout le monde. Qu'on ait été gentil, méchant, chrétien ou pas, il va sauver tout le monde. C'est ça la notion du bon Dieu. Ce bon Dieu, il n'existe pas. Par contre, Azaf dit, oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Dieu fait grâce, même aux méchants qui ne le connaissent pas. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Parce que c'est un Dieu de grâce. Mais, c'est un Dieu juste. Il ne prend pas l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. Et qu'au bout du bout, il jugera chacun. Et il dit que ceux qui ne se confient pas en Dieu, ils vont disparaître. Et que Dieu même, dans son jugement, va les réduire au silence. Et Azaf termine en disant, quant à moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai choisi pour abri le Seigneur Dieu, afin de raconter toutes tes œuvres. Azaf a compris qu'avec Dieu, c'est pas le moment de l'épreuve, c'est pas le moment où on a la bulle noire qu'il faut garder en tête. Il faut mettre tous les morceaux de la présence de Dieu dans nos vies. Comme le dit le chant, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras que le nombre de fois où Dieu est intervenu est bien plus nombreux que le nombre de fois où tu as l'impression qu'il n'est pas intervenu. Ce message me parle particulièrement parce que pendant cette pandémie, pendant ces moments, pendant ces jours qui sont passés, c'est vrai que j'avais ce combat, ce doute aussi. Seigneur, regarde, on t'aime. Et pourtant, nos vies ne sont pas toujours tranquilles. On sort d'une épreuve, il y en a une autre. Comment cela se peut-il? On n'est pas pire que les autres. En plus, on t'a dans nos vies. Seigneur, regarde, en tant qu'Église, on est là, on a tenu bon. On aimerait faire tellement de choses pour toi, mais on a l'impression que ça ne bouge pas. Seigneur, où es-tu? Tous ces hommes qui ne te connaissent pas, on prie, on fait, on évangélise. On prêche, on est là. C'est vrai, tu nous envoies un ou deux, mais On aimerait tellement que tu sois plus, que ce soit dans nos propres familles ou ceux que nous rencontrons. Et on peut être, on peut se dire, ouf, ouais, franchement, c'est quand même un peu dur, Seigneur. Où es-tu? Comme Asaph. Alors, si tu es comme Asaph, et que peut-être il y a des situations comme ça qui sont dans ta vie ces jours-ci, où tu ne vois pas le bout du tunnel, comme on dit, où tu as l'impression que ça dure, écoute, lis Asaph. Je le rappelle, Asaph est né en Israël. Il a été enseigné dans la parole de Dieu. Il sert au temple. Il est serviteur de Dieu au temple. Il est musicien. Il est auteur du psaume 73 jusqu'au psaume 14. Il est auteur de 10 psaumes qui sont devenus paroles de Dieu par le Saint-Esprit. Et pourtant, le premier des 7 psaumes, il a ce doute. Le doute, on peut l'avoir en tant qu'enfant de Dieu, mais c'est comment on le gère. Asaph dit, je suis allé dans le sanctuaire, j'ai bien réfléchi. Quand je laissais le doute m'envahir et prendre possession de moi, j'étais un abruti, j'étais un insensé. Et je me dis toujours, si Jésus n'était pas rentré dans ma vie, et le doute me dit, ouais, mais si Jésus n'était pas rentré dans ta vie, peut-être que tu aurais une vie autre. Je dis, c'est faux, parce que je sais, au moment où Jésus est rentré dans ma vie, ce que ma mère disait. Ma mère disait, Serge, si tu continues sur ce chemin, tu vas te perdre. Et Jésus, quand il est rentré dans ma vie, il a changé des choses incroyables. Donc, je sais que si j'avais pas Jésus, peut-être j'aurais eu une vie sociale comme tous les jeunes de mon époque, peut-être. Mais que je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Et cette vie-là, je la regrette pas et je suis reconnaissant Dieu parce que Dieu a été dans ma vie. Bien-aimé, c'est là le point pour repousser les doutes. Regarde ce que Dieu a fait de toi. Même si c'est possible que tu traverses des moments très, très difficiles, très compliqués aujourd'hui, mais regarde ce que Dieu a fait de toi. Et bien plus, Asaph dit, je ferai de Dieu mon abri. Parce que le lendemain, tu ne le connais pas, mais Dieu, lui, le connaît. Et c'est lui, on dit, et c'est Jacques qui le dit, quand même il laisse l'épreuve, quand même il laisse la difficulté venir à toi, il donne toujours une porte pour s'en sortir. Donc il est fidèle. Il ne nous regarde pas sans agir, même si nous avons l'impression qu'il n'agit pas. C'est là l'expérience d'Asaph. Il finit en disant, moi, Asaph, j'ai compris. Je ne ferai plus cette erreur-là. J'ai compris que le doute, c'est un ennemi terrible qui avait la vocation de me retirer de mon Dieu et de me pousser vers le chemin de la perdition. J'y ai résisté. Je suis revenu dans la maison de Dieu. Le Seigneur a éclairé ma pensée. J'ai compris. Désormais, j'ai choisi pour abri le Seigneur Dieu. J'ai choisi pour abri le Seigneur Dieu. Je veux raconter toutes les œuvres de mon Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse, que nous fortifie et que sa grâce soit suffisante sur nous. Amen.